Ça.
Éric Duhem, il fait de la belle ouvrage. C'est ça qui est ça. Duhem, le midi.
Bonjour, Éric.
Salut, mon cher Paul Raphaël.
Ah, t'ont-tu installé pour que t'animes de la maison, toi, avec?
Oui. Tout est fait. J'ai une ligne broadcast, j'ai mon Comrex, j'ai tout. Garde, je full équipe, mais je résiste. Tant que je vais pouvoir rentrer en studio, je vais tout faire pour faire animer à partir d'une station, parce que pour moi, il y a quelque chose d'antinomique, quelque chose qui marche pas pas animer dans un studio. Mais juste, ne serait-ce que l'ambiance, ne serait-ce que... Tu sais, notre job, là, c'est pas fait de faire de la radio à partir d'un garde-robe. Là.
Ben non.
Et je capote à l'idée de devoir faire mes émissions à partir de chez nous. Fait que je vais... S'il en reste un seul qui va pouvoir continuer à rentrer à station, j'espère que ce soit moi.
Mais juste pour la mécanique de l'animation, tu sais, pour faire signe au metteur en onde, par la pause, ou on vient de la pause, ou on prend un appel. Ouais. Tu sais, ça, c'est tellement plus facile quand tu es en studio. Là.
Moi, j'adore faire des tribunes téléphoniques, vous le savez. Là, j'en fais deux par émission en moyenne. Écoute, c'est la coordination, là, puis c'est niaiseux, là, puis juste la fraction de seconde de différence, parce qu'il y a quand même une petite fraction de seconde. Là. Moi, je suis un gars qui est assez prime, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué.
Un peu quand même.
Je bois pas de café, mais tout le monde pense que j'en ai 10 d'avance sur eux autres à tous les matins. Mais tout ça pour dire que cette fraction de seconde-là, moi, dès qu'il y a un vide, je pars. Puis quand il y a un décalage, ça devient cacophonique. Fait que ça va être tout un défi. En tout cas, si ça arrive, je me croise les doigts. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, puis j'espère que ça arrivera pas.
Bon, Éric, en même temps, si je voulais te parler aujourd'hui, c'est aussi parce que j'aime toujours avoir ton analyse politique de plein d'affaires. Puis là, évidemment, on est en pleine crise du coronavirus. On a parlé avec Steve Flanagan en fin de semaine passée, qui était très aussi affaire publique. C'était le visage de la crise du verglas de 98. On se souvient de lui vraiment pour ça, là. Je veux qu'on passe à travers plusieurs affaires. Commençons avec François Legault, parce que ça, je pense que ça va être quand même assez rapide. Écoute, il y a des scores soviétiques dans les sondages, Éric, ces temps-ci, c'est incroyable. Là.
Mais je veux juste amener un petit bémol aujourd'hui, là, puis je veux rien enlever au travail qui a été fait. François Legault a été celui qui, depuis le début de la crise, nous a rassurés, a été celui qui a l'air en contrôle de la situation. Il a été celui qui a fait en sorte que les Québécois, je pense, en très grande majorité, ont écouté les consignes. C'est sûr que, puis ça paraît, là, son bulletin est à peu près parfait. Il y a eu des petites affaires. Puis rappelez-vous que ça a mal parti. Là. La veille, avant que ça parte, là, il déposait un budget alors que tout le monde disait, voyons donc, si tu fous déposer un budget dans un contexte comme celui-là, ça a ni queue ni tête. On peut pas faire un budget alors qu'on sait même pas ce qui nous pend au bout du nez avec cette crise-là. Ça avait très mal parti avec son ministre des Finances, mais il a réussi rapidement. En 24 heures, il a pris le contrôle. Il a commencé ses conférences de presse quotidiennes à 13 heures à tous les jours. Il nous donne l'information.
Mais juste concernant le budget, Éric, là, mettons, toi qui a vraiment, tu sais, t'as baigné dans la politique, ça change quoi qu'il ait déposé le budget, mais que finalement, il n'y a pas des modifications, parce que là, la crise exige ça. Mais dans le fond, le budget a été déposé, il le modifie en fonction du contexte.
Mais ça donnait quoi qu'il dépose? Ça a donné zéro, parce qu'on savait déjà, au moment où il l'a déposé, là, on savait que ce budget-là valait rien.
C'est ça, mais je veux dire, c'est pas, dans le fond, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça n'a pas des conséquences bien graves.
Non. Sauf que ça nous a donné des faux chiffres.
Ben oui, puis non, parce que le budget, il s'applique sur la prochaine année, puis probablement que la situation va revenir un peu plus à la normale, peut-être pas parfaitement.
Non. D'abord, les entrées d'argent seront pas atteintes, seront pas du tout ce qui était estimé, puis les dépenses ont pu rien avoir. Ce budget-là, là, autant la colonne des revenus que la colonne des dépenses, c'est complètement dans le champ.
Mais ça te prend quand même une base. Ça prend quand même une base pour comparer.
Oui, mais le budget, là, c'est le budget de ce qui s'en vient dans les 12 prochains mois. Les 12 prochains mois, là, on va regarder ce que le budget qui a été déposé l'année passée, puis la réalité, là, ça, d'habituellement, si on mesure, il y a-tu 1% d'écart, puis on dit, ils ont surestimé ci, ils ont sous-estimé ça. Là, ça va être complètement loufoque. D'ailleurs, à Ottawa, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Hein. À Ottawa, le budget Morneau a été retardé à cause de la crise, et ils ont décidé qu'ils vont faire des mises à jour périodiques. Mais c'est parce que, en envoyant un mauvais... T'es mieux de pas envoyer de chiffres que d'envoyer des mauvais chiffres. C'était un peu la logique qui était derrière ça. Mais je te parle de lui parce que combien de temps... Puis là, on est super content du travail du premier ministre. On est super content de la façon qu'il a mené ça. Mais pendant combien de temps on va l'être?
Bon, ben regarde, cette semaine, là, l'enjeu, je dirais, le peut-être principal ou le point de mécontentement principal, c'était l'approvisionnement des équipements médicaux. Là, puis là, oui. Ça a commencé. Les syndicats s'en mêlent puis disent le gouvernement Legault laisse tomber ses anges gardiens. Puis là, tu vois ça prend pas grand-chose des fois pour que, oups, des fois, là, le discours va dévier. Puis à un moment donné, là, on est un peu moins en contrôle. Là.
Oui. Puis l'autre truc aussi, là, on voit que la courbe au Québec... non seulement on a pris les mesures les plus drastiques au Canada, mais c'est quand on regarde les chiffres au moment où je vous parle, puis je sais que ça va changer, là, mais présentement, on est le pire endroit au Canada. Et on est ceux là, qui ont quoi? C'est 40-45% des cas, c'est au Québec. Les morts, c'est plus qu'un sur trois. Je veux dire, on est par rapport au ratio de notre population, on est bien au-dessus. Alors qu'on a pris les mesures les plus drastiques. En Ontario, les chantiers de construction sont encore ouverts. Oh oui. Il y a des provinces où il y a un paquet de trucs qui fonctionnent encore. Là, nous autres, on a vraiment pris les mesures extrêmes, puis les résultats ne sont pas nécessairement moins pires, sont même pires qu'ailleurs.
Et à un moment donné, mais notre semaine de relâche était ça. On l'a entendu beaucoup aussi cette semaine, mais j'ai l'impression qu'il manquait peut-être un peu de... Je sais pas s'il manque de transparence, c'est peut-être vraiment juste ça, la seule explication qu'ils ont. Mais si c'est juste ça, il y a pas mal de monde qui ont dit, là, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose.
On parle du nombre de tests aussi, qui est peut-être plus élevé ici qu'ailleurs.
Oui, ça, ils disaient ça au début. Ça, ils le disent plus parce que c'est plus vrai. Fait que là, il y a plein d'affaires qui sont en train de changer. Et combien de semaines encore... ils peuvent tenir ça. Parce que le problème qu'ils ont, là, pis c'est pas la faute à Legault, pis c'est pas la faute d'aucun gouvernement sur la planète, c'est qu'on a aucune espèce d'idée. La réalité, là, c'est qu'ils savent pas plus que nous. Ils savent pas à partir de quel jour ça va revirer de bord, puis combien de morts on va avoir, puis combien de gens vont le pogner. Ils ont aucune espèce d'idée. On est dans le néant, on n'a jamais vécu ça. Et il y a un paquet de gouvernements sur la planète qui prennent des options différentes d'un pays à l'autre. En termes de politique publique, là, on est tous des cobayes. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Là.
Mais t'as vu ce qui se fait en Corée du Sud, eux autres, là, ils ont testé comme des fous, là, ils ont testé centaines de milliers de personnes et ils utilisent les données des cellulaires pour géolocaliser le monde. Ça fait que là, c'est comme si là-bas, il se passait rien, de « Ah, pas de problème, les magasins ferment pas », mais le gouvernement, c'est en tout temps, t'es où? Puis si t'es infecté, tu peux pas sortir de chez vous. Là. Sinon,
ça, évidemment, c'est un modèle qui s'applique difficilement au Québec parce que vous comprenez qu'ici, on n'a pas la même discipline, puis on n'a pas une dictature aussi forte là, que dans certains pays. Mais prenons des pays qui se ressemblent plus, le regardons en Europe. Là. En Suède, présentement, là, les écoles sont ouvertes, les gyms sont ouverts, les restos sont ouverts, les bars sont ouverts, les garderies sont ouvertes, les pentes de ski, le monde sont ses pentes de ski à faire du ski. Puis pourtant, là, la pandémie en Europe, elle explose. Là. C'est quand même encore l'épicentre au moment où on se parle. Là. Et ils ont décidé qu'eux, ils faisaient ce que tu dis, là, Paul-Raphaël. Ils testent beaucoup plus que nous autres. Puis ils confinent les personnes âgées beaucoup. Et les gens qui sont malades, ils les soignent. Mais ils ont décidé que la meilleure façon de prévenir pour eux, c'était ça. Parce que, comme un peu comme une grippe, quand nous autres, on a une grippe ici. Là.
C'est ça.
Puis d'un pays à l'autre aussi, l'autre truc qui est hallucinant avec ce virus-là, tu regardes en Allemagne, le nombre de morts par rapport aux gens qui l'ont...
C'est 1%. C'est
même pas un demi. Ça, ben. C'est capoté. Alors que le pays à côté, en Italie, là, ils ont des frontières communes, ce monde-là. Là. C'est ça, ça explose. Fait qu'il y a vraiment, là... Puis c'est sûr qu'on peut pas conclure rien présentement parce qu'on est en plein milieu, on est au cœur de la tempête, là. Mais quand c'est d'un point de vue d'analyse, ça va être intéressant, a posteriori, de regarder puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis qui avait la bonne approche. Mais je peux te dire une chose, je voudrais pas être dans les souliers d'aucun gouvernement actuellement parce que c'est des situations extraordinairement difficiles. Et même François Legault, qui présentement semble ultra populaire chez nous, là... Après combien de semaines que les gens vont être dans le salon à se taper ses nerfs pis à plus savoir quoi faire, là, que là, ils vont dire, là, faut réouvrir les business, là. À tous les jours qui passent, là, il y a pas juste des morts, là, tu sais, on est rendu à quoi, 21, 22, là, depuis le début de la crise au Québec,
22.
Là. À tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de business, là, qui meurent, là.
Oui, puis plus ça va avancer, plus ça va être difficile de faire respecter les mesures de confinement, là.
Puis là, à un moment donné, là, les gens vont dire, garde, moi, là, je veux travailler, là, je m'excuse, là, mais là, c'est plus du coronavirus que j'ai peur, là, j'ai peur de crever de faim, là. Et là, il va y avoir une pression, puis il va y avoir deux trucs qui vont s'affronter. Puis l'autre truc qu'il va faire, il va falloir qu'on fasse preuve de transparence. Moi, je pense que Legault, là, son vrai test, c'est la transparence. Plus il va être honnête, moi, je pense que c'est plus que toutes les mesures qu'il va adopter, là, ce qui est important, c'est qu'il soit transparent. Puis c'est la même chose à Ottawa. À Ottawa, là, il avait très mal parti, hein, on va se le dire, là, Justin Trudeau, depuis le début de la crise.
Ouais, ben, j'ai même de la misère à trouver que ça va mieux. Là. Je sais qu'il y a plusieurs observateurs qui disent que c'est moins pire.
Non, ça va pas très bien.
C'est moins pire, mais ça veut pas dire que ça va bien pour autant.
Non, mais le fait est qu'ils sont en train de mettre de l'argent, puis là, ça va calmer le monde pendant un petit bout de temps. Mais ça aussi, c'est une mesure temporaire. Là. On peut pas éternellement vivre avec un chèque qui rentre d'Ottawa, puis aller se nourrir dans les banques alimentaires comme il y a 800 000 Québécois qui vont faire dans les prochains jours. Là. ça peut pas marcher, ce modèle-là, puis on veut pas que ça soit ça, notre avenir comme peuple. Ben donc, la pression va être de plus en plus énorme, et il va falloir qu'à un moment donné, on voit comment on repart l'économie, parce que là, on c'est pas du coronavirus là qu'on va tous mourir là si on fait rien. Là. Il faut pour que le Québec reste en santé là, oui, il faut qu'on maîtrise le virus, mais il faut aussi que notre économie roule. Et là, on a décidé de mettre l'économie à pause. On a étalé dans les mesures les plus extrêmes. Et à un moment donné, la pression va faire en sorte que le gouvernement n'aura pas le choix là, d'ouvrir la machine d'une façon ou d'une autre. Et comment il va le faire? Puis si, le jour où Trump va décider que c'est assez, parce que Trump, lui, c'est à part qu'il veut partir la machine.
Ben ouais.
Moi, je vous dis qu'on va réaliser que le Québec, on est un joueur mineur. Dans le sens où les chaînes de production américaines, quand ils vont décider de se remettre en marche, les sous-contractants québécois, là, ils n'auront pas le choix de se remettre en marche, parce que sinon, c'est l'économie du Québec, on vient de la laminer pour une décennie. On va être obligé parce qu'on fait partie d'un, on est interdépendant économiquement là. Fait que si les Américains repartent à la machine là, puis que nous autres on la repart pas là, ben ils vont aller ailleurs. Puis on sera plus signifiant économiquement parlant là.
Il y a un auditeur qui m'écrivait, j'imagine qu'il t'a écrit aussi concernant cette lui appelait ça justement l'immunité sociale. Donc c'est un peu ce qu'ils font en Suède là, c'est de confiner les gens aussi. qui sont vraiment vulnérables, donc 70 ans et plus. Puis après ça, ben de laisser les gens de la population tomber malades, s'en remettre, puis après ça, ben être immunisé.
C'est le vaccin naturel, dans le fond. Là.
D'une certaine manière, c'est ça. Puis plus je pense à cette mesure-là, plus je me dis... Parce que on s'entend, c'est autant draconien que de tout fermer, là. Tu sais, dans le sens où là, t'acceptes que ta population va être malade.
T'acceptes qu'il y en a qui vont mourir.
Ben, t'acceptes qu'il y a des gens... Oui.
Parce qu'il y en a qui ne sait pas.
Mais tu confines les vulnérables. Mais dans le fond, est-ce qu'à partir du moment où on a tellement tardé à contrôler dans les aéroports, à fermer nos frontières, est-ce qu'à partir du moment où on l'a échappé à ce moment-là, on l'avait aussi échappé au niveau des mesures de quarantaine?
Ben, je veux dire, c'est ce que je pense. Là.
Le virus arrivait de l'extérieur.
Il y a une région qui l'a pu. Là. Ils ont fermé 8 régions hier, là, mais même des régions qui ont fermé, il y a des cas. Là.
Oui.
Et puis ça, c'est ce qu'on sait. Parce que c'est toujours sous-estimé là. T'as raison. D'une certaine façon, on l'a échappé. Puis pour y répondre, là, on accepte qu'il y a des gens qui meurent, pas nécessairement. Il y a 99% des gens qui meurent là, ils ont quand même des préconditions là. Il y a au moins un facteur. Il y a au moins une maladie chronique. 99% des gens. Puis l'âge moyen au Québec, le garde, on nous le dit pas. Hein, sur les 22 personnes qui sont décédées depuis le début de la crise, quel est l'âge moyen?
Ah, mais ils ont tous plus que 65 ans.
En Italie, c'est 79 ans, puis la moyenne des gens qui meurent, c'est 80 ans. OK? Donc, c'est pas... Il y a pas de jeunes, là. Fait que, oui, on est capable de circonscrire. C'est pas un virus qui attaque tout le monde égal, là. Et il faut prendre des prédispositions, c'est clair. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils se protègent beaucoup plus que d'autres dans notre société. Là. Mais comment on va réussir à faire ça? Parce qu'on va être obligé de se poser ces questions-là. Là, on ne pourra pas fermer l'économie un an de temps. Là.
Ben non,
puis l'autre
impossible.
Truc qu'on sait, là, c'est que là, c'est le COVID-19, mais dans quelques mois, ça va être COVID-20. Puis dans un an, ça va être COVID-21. Là. Et c'est, je veux dire, il va y avoir d'autres vagues à ce virus-là. Là.
C'est drôle,
il va falloir mieux se prévenir que ça. Là.
Notre collègue Sylvain, hier, il était dans l'émission avec nous autres. Puis lui, théorie, c'était que le COVID-19, ça rejoint un peu ce que tu dis, Eric, là. Sa théorie, c'était que la COVID-19, c'était comme une espèce de pratique, c'était comme un warm-up. Oui. Parce que, en réalité, le danger de ce virus-là, c'est qu'il se partage à une vitesse fulgurante, hyper contagieux. Tu te regardes de chaque bord du coin de la rue puis tu le pognes. Je fais des blagues, mais c'est hyper contagieux. Mais c'est un virus pour les chimistes puis pour les microbiologistes qui est extrêmement faible parce que non seulement ben il tue pas tant de monde que ça quand tu le compares aux autres, mais tu passes une petite guenille avec du désinfectant, il est mort direct. C'est pas un virus qui survit beaucoup. Le moment où est-ce qu'on a un virus qui a le niveau de propagation puis de contagion de la COVID-19, mais qui tue un peu plus de monde puis qui est plus difficile à tuer sur des surfaces, ça sera pas beau là. Il va falloir qu'on commence à avoir des méthodes qui sont plus efficaces que de dire aux gens « Restez chez vous », puis qu'il y a une part de la population qui ne la respecte pas, ce qui va faire en sorte que ça mine de manière importante l'efficacité de ces mesures-là.
Puis il va falloir penser aussi, je te donne un exemple, là, pour se préparer pour la prochaine fois, plutôt que de fermer l'économie la prochaine fois, si on disait « On va avoir plus de respirateurs artificiels », puis on va pouvoir prendre en considération, là, on va pouvoir s'occuper de plus de monde rapidement sur des civières, parce que c'est ça qu'on craint, c'est pour ça qu'on veut aplanir la courbe, c'est pour ça qu'on a arrêté le Québec de travailler puis qu'on l'a mis sur pause. C'est pas parce qu'on veut pas que les gens le prennent, c'est qu'on veut que ça soit échelonné dans le temps pour que notre système de santé puisse répondre à la demande. Faut se rappeler de ça, là, la base. Là. Il y en a, ils disent entre 20, puis les chiffres sont pas précis, là, mais entre 20 et 70 % de la population qui va le pogner. OK? On va en guérir dans 99 point quelque chose pour 100 des cas, OK?
Entre 20 puis 70.
Mais non, mais c'est ça, c'est que les chiffres. Mais c'est pour ça, c'est ça que je te dis. Ah ouais. Quand je te dis qu'on prend des politiques à l'aveugle actuellement, c'est parce qu'on n'a aucune idée de où ça s'en va. Puis il y a des affaires qui sont c'est incompréhensible. Quand tu regardes juste les chiffres, tu vas me dire qu'il y a des pays qui mentent, là. Tu sais, moi, la Chine, ils ont beau me dire que c'est fini en Chine puis il n'y a plus de cas, là.
La Russie, il n'y en aurait pas.
Zéro. Ben en Russie, il n'y en a pratiquement pas. En Iran, ça avait monté, ça a redescendu, là, ça remonte. Eux autres, ils jouent aux montagnes russes avec le chiffre.
On a parlé avec un gars tantôt, un jeune entrepreneur qui est en Chine. Parce que lui, il allait développer le marché là-bas. Sa blonde est chinoise, oui. Donc il restait là. Mais il est à 1000 km de Wuhan. Sauf que, il nous explique que là-bas, effectivement, ça repart. Puis là, les mesures ont. Tu sais, il y a des mesures qui ont été levées. Fait que les business rouvrent, les gens peuvent sortir. Mais il continue de prendre la température systématiquement des gens, puis il continue de tout désinfecter. Fait que là, moi, je me disais, puis je voulais pas trop l'inquiéter avec ça, mais je me disais, là, s'il continue de guetter tout le monde, là, il continue à tout désinfecter, ça veut dire que. Le virus, y a-tu tant fini que ça? Ou il y en avait marre d'avoir une économie qui avance pas puis qui roule pas? Puis, tu sais, il y a ça, là.
Et, oui, évidemment, présentement, on peut pas répondre pour ce qui se passe en Chine, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais on peut regarder le passé, par exemple. Et on sait que, notamment, le SRAS, hein, qui est encore pire en termes de mortalité, là, je vous rappelle que 40 Canadiens sont morts à Toronto quand c'est sorti il y a une dizaine d'années, là. Le SRAS, là, ça venait de Chine. Au début, ils ont fait exactement ce qu'ils ont fait encore avec le coronavirus. Ils avaient dit, ils ont attaqué les gens qui ont découvert ça, les médecins. Ils ont menti à la communauté internationale. Ils ont minimisé l'impact du virus. Ils nous ont pas donné les vraies statistiques. Ils l'ont fait pour le SRAS. Pourquoi ils le feraient pas aujourd'hui pour le coronavirus? Eux, là, ils ont un intérêt économique de nous dire que c'est fini, puis de repartir la machine, parce qu'ils veulent nous approvisionner, puis ils veulent nous vendre des fournitures pendant que nous autres, on produit plus rien. Là. Parce que, bizarrement, là, pis ça, c'est le bout de la merde, comme dirait l'autre, ça pourrait être les Chinois qui sortent gagnants de ce virus-là, économiquement parlant, parce que c'est la première économie qui va se remettre en marche.
Ouais.
Et là, c'est eux qui vont approvisionner tout le monde. Puis ça serait le bout, là, je parle pas des Chinois en tant qu'individu, là, mais le gouvernement chinois est responsable de l'actuelle crise, là. Les mesures de salubrité épouvantables, le manque d'hygiène dans ce pays-là qui est toléré dans les marchés publics, là, c'est ça qui est responsable, pas juste du coronavirus, mais d'un paquet d'autres virus depuis très longtemps, là. Puis il va falloir un moment donné que ces gens-là payent. On est pas vrai qu'on va récompenser le pays le plus crotté, pas juste en termes hygiène, mais en termes de pratiques publiques.
Ouais.
Puis on va les récompenser économiquement après cette crise-là. Il va falloir qu'on se consulte tous les autres pays, puis qu'à un moment donné, on prenne des mesures drastiques envers la Chine. Il va falloir que ce pays-là marche comme tout le monde, ou bien non, qu'on commence à couper nos relations, puis qu'on nos importations de Chine, là, on commence à diminuer ça un peu, là.
Écoute, Eric, il va falloir qu'on arrête là, parce que là, Vez vient de commencer à éternuer puis à tousser, fait qu'on va évacuer le bureau. Mais inquiète-toi pas, tu vas pouvoir... Ah non, c'est vrai, t'animes de chez vous. J'allais dire, on va tout désinfecter en partant.
Non, demain, je vais être dans le studio. Inquiète-toi pas.
Ah oui, OK. Ah bon?
Non, j'ai mes affaires chez nous, mais je veux pas les utiliser.
Mais j'ai rien à dire de plus.
Regarde, c'est un plan B, comprenez-vous? C'est un plan B. C'est un dernier recours.